Jean-Pierre Gaillard.
La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Il y a des courses cet après-midi en Anguin. Nous avons déjà l'arrivée de la première course. Premier le 6, deuxième le 9 et troisième l'As. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, bien sûr. Bonjour Patrice.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 3 mai 1814, 26 février 1815, Napoléon à l'île d'Elbe.
Mettez un tigre dans une cage mal fermée. Menacez-le, harcelez-le et privez-le de nourriture. Vous verrez bien ce qui arrivera. Georges Blond.
D'histoire. C'est une des périodes les moins connues de l'épopée napoléonienne, une des plus insolites aussi, les 10 mois pendant lesquels Napoléon a régné sur une île minuscule en face de la côte italienne, l'île d'Elbe. Entouré d'une poignée de fidèles mais abandonné par tous ceux dont il avait fait la fortune, celui qui avait fait trembler toutes les têtes couronnées d'Europe n'était plus que le souverain d'opérette d'un caillou plus petit qu'un département français. Le dernier lambeau d'un immense empire qui s'était effondré le 11 avril 1814. Ce jour-là, à Fontainebleau, Napoléon apprenait que pour la première fois depuis la guerre de Cent Ans, Paris était occupé par une armée étrangère.
Sire, les Cosaques viennent d'entrer dans Paris. Les Parisiens sont prêts à toutes les lâchetés pour protéger leur ville. Ils ont même applaudi la décision des puissances alliées exigeant votre abdication, dont voici les conditions.
J'ai pas besoin de lire ça pour savoir qu'elles sont inacceptables.
On vous enjoint de quitter la France. Cependant, on vous accorde la souveraineté de l'île d'Elbe. C'est au large des côtes italiennes.
Je connais. Un caillou. Napoléon Ronac Caillou. Grotesque.
Patrick Rambaud, bonjour.
Bonjour.
Alors après deux romans que vous avez consacrés à Napoléon, La Bataille, hein, qui a eu reçu le prix Goncourt en 97, et Il neigeait, hein, qui se passe pendant la retraite de Russie, voilà qu'avec L'Absent, vous nous transportez à l'île d'Elbe, où Napoléon a vécu pendant 10 mois, en 1814 et 1815. Pourquoi avoir choisi cette période de l'aventure napoléonienne? Ce n'est ni la plus connue, ni la plus glorieuse, ni même la plus tragique, comme le sera plus tard Sainte-Hélène.
Non, c'est une tragicomédie, en fait. Hein. C'est plus proche de Luis Mariano, hein, que d'autres choses. Mais tout simplement parce que je cherchais à faire un triptyque. Quand j'ai fait La Bataille, je me suis dit, il faut que je fasse 3 volumes sur la fin de l'Empire. Et puis j'ai cherché, après je me suis dit, après la retraite de Russie, qu'est-ce qui reste? Je vais quand même pas faire Waterloo, La Bataille, j'en ai déjà fait une, je vais pas en faire deux, c'est pas ma spécialité. Et puis les 100 jours ont été traités, retraités, surtraités, et quant à Sainte-Hélène, on n'a même pas l'impression de connaître. Donc il restait que cet épisode, cette espèce de parenthèse dans la vie de Napoléon, sur laquelle on passe à toute vitesse. On dit, il est parti à l'île d'Elbe, et puis il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 10 mois? Donc je me suis interrogé là-dessus.
Et puis surtout, on découvre un personnage infiniment plus humain qu'on ne l'imagine. Toute la première partie de votre livre se déroule à Fontainebleau, avant qu'il aille à l'île d'Elbe. Et là, il est même plus qu'humain. Il est vraiment presque faible. Au moment où on lui apprend qu'il doit abdiquer, il tente de se suicider, par exemple.
Ah ben, il nous fait une grosse dépression qui dure au moins un mois, oui. Et tout le monde le surveille, enfin tout le monde, ceux qui restent, parce que petit à petit, il est très isolé, il voit tous les gens partir, soit les généraux, ses valets, ou même Constant, le fidèle Constant, soi-disant, qui est parti, son mamelouk s'en va, et tout le monde, il est tout seul dans cette espèce de grand château, avec, ils sont 10, il reste à 10 à la fin, c'est assez désordre.
Ah oui, tous ces maréchaux le trahissent, l'armée de Marmont rentre dans Paris pour se rallier à l'occupant, Talleyrand négocie avec les Russes, il y a très peu de fidèles, d'ailleurs, parmi ceux qui le
suivront l'île d'Elbe, hein, il y a des généraux. Hein,
il y en a trois, oui, il y en a trois essentiellement. Il y a Bertrand, le comte Bertrand, il y a ce Cambronne, ce célèbre Cambronne qui n'a jamais dit merde, vous savez.
À Waterloo, oui.
Oui, jamais. Et puis Drouot, qui est un garçon d'une fidélité, d'une honnêteté extraordinaire, mais qui n'a pas inventé grand-chose. Quoi.
Et puis alors, sur le chemin, Patrick Rambaud, qui le conduit à Fréjus, d'où il doit embarquer pour l'île d'Elbe, alors là, c'est encore pire, parce qu'au début, il est acclamé par la population, mais passé Avignon, ou passé Lyon en tout cas, il se fait conspuer par une opinion publique qui est très royaliste à cet endroit-là.
Il y a une ligne, vraiment, qui partage la France. C'est vraiment l'ardoise et la tuile. Hein. C'est vraiment deux pays différents. Plus au nord, il a lancé beaucoup de manufactures. Il s'en est beaucoup occupé de cette région. Alors, à Nevers, tout le monde l'acclame encore, comme s'il était toujours empereur. Et puis, à partir de Valence, ça commence à aller très mal, parce que toute la Provence, tout le Midi était très royaliste quand même. Même sous la Révolution, ils étaient très anti-révolutionnaires. Et après très anti-impériaux. Donc là, il manque de se faire tuer sans arrêt. Quoi.
Alors il arrive.
Un petit peu déguisement. Ouais. Qui sont grotesques et impitoyables en même temps.
Alors il embarque à Fréjus donc pour l'île d'Elbe, où il arrive le 3 mai 1814, Patrick Rambaud. C'est un territoire minuscule hein, par rapport à l'empire qu'il gouvernait encore quelques mois auparavant.
Bah, il avait un empire, il a une sous-préfecture. Ouais. C'est une vraie sous-préfecture. En plus.
211 km², 29 km de long, 18 de large.
C'est un caillou à 15 km des côtes de la Toscane, et c'est la sous-préfecture du département de la Méditerranée.
Ah, c'est une ville française. Enfin, c'était une île française. Bah,
il y avait 180 départements en France à l'époque. Et l'île d'Elbe dépendait de la préfecture qui était Livourne.
Et puis alors donc, il va en devenir, c'est le titre d'ailleurs qu'il a jamais voulu accepter, de souverain de l'île d'Elbe. Hein. Il y a même son drapeau blanc coupé en diagonale par une bande orange avec trois abeilles. Il y a un gouvernement, une armée entre guillemets, hein, 1200 hommes à peine, et même ce qui pouvait ressembler à une cour.
Vous voyez, Cambronne, cette dame ne danse pas pour vous dévouer.
Messire, c'est la femme du poissonnier.
Et alors, vous êtes bien le fils d'un marchand de bois.
Madame, accepteriez-vous cette danse?
Petite Fanny, vous avez pleuré. Si c'est Bertrand qui vous fait des misères, dites-le moi, je le punirai. Vous savez comment? Je ferai vous ma maîtresse.
Il est vrai que j'ai pleuré, sire. Mais vous mariniez pour rien, c'est à cause de vous.
À cause de moi?
Oui, sire. En pensant au chagrin que j'allais vous faire. J'ai reçu une lettre de France, de Cronincourt.
Il n'est rien arrivé à mon fils ou à ma femme. C'est Joséphine?
C'est elle est morte.
Alors c'était un extrait du téléfilm d'Yves Simonneau, Napoléon, avec Christian Clavier dans le rôle titre, Christian Clavier qu'on a entendu, apprenant donc la mort de Joséphine, quelques jours à peine après que Napoléon soit arrivé à l'île d'Elbe, la première impératrice, puisque c'est Marie-Louise qui est devenue ensuite impératrice, et elle n'est jamais venue à l'île d'Elbe, ni elle, ni le fils qu'elle a eu avec Napoléon,
non, Patrick Rambaud. Ils ont été empêchés de venir, essentiellement par l'empereur d'Autriche, le beau-père, si je puis dire, qui ne voulait absolument pas que sa fille rejoigne l'île d'Elbe. Elle avait assez envie de rejoindre. Elle s'est laissée manœuvrer complètement et manipuler. Donc, il ne reverra jamais. Il ne la reverra jamais, et son fils non plus.
C'est clair, la solitude de Napoléon à l'île d'Elbe. On le disait à l'instant, il y a peu de gens qui l'ont suivi. Même sa famille, d'ailleurs, est absente, à part deux personnes qu'on retrouve dans votre livre.
Oui, sa mère est venue comme s'installer, mais elle sortait pas beaucoup de chez elle. Sauf peut-être le dimanche soir pour jouer aux cartes avec lui. Et comme il trichait horriblement, ça se terminait assez tôt, généralement. Mais il remboursait le lendemain ce qu'il avait volé la veille, hein, quand même. Et puis sa sœur Pauline, sa petite sœur préférée, qui est venue le voir, qui était la plus fidèle et qui est restée fidèle jusqu'à sa mort. Hein. Mmh. Elle est morte 2-3 ans après la mort de Napoléon, en prononçant son nom. C'est très étrange.
Il y a une femme qui est passée aussi en septembre, qui était Marie Walewska, la maîtresse polonaise de Napoléon, et qui vient avec le fils qu'elle a eu de lui aussi.
Et qui ressemble à l'aiglon, d'ailleurs. Oui. Il se ressemble beaucoup.
Et qui sera le futur, d'ailleurs, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III.
Voilà. Ouais,
Walewski, oui.
Oui, ben elle reste 48 heures, c'est pas très long. Ouais. Elle allait en Italie, elle a fait l'escale à l'île d'Elbe.
Et puis alors, il y a aucun des maréchaux. Hein. Il y a ces trois généraux qu'on nous rappelle peut-être le rôle qu'ils avaient. Il y avait Bertrand, donc, qui était entre guillemets, en quelque sorte, le ministre de l'Intérieur de Napoléon à l'île d'Elbe.
Oui, enfin, si on veut. Oui. Cambronne, ministre de la guerre, si on veut. Enfin, ouais, en gros, bah, ils avaient un rôle. Ils s'occupaient des potagers, surtout.
Il y avait des personnages passionnants, si qu'on trouve dans votre livre, Patrick Rambaud. Il y a notamment, par exemple, celui que Napoléon a nommé l'administrateur procurateur de Lille, qui était un républicain, qui était devenu anti-napoléonien, anti-bonapartiste, et qui est devenu finalement, qui a été séduit par Napoléon, c'était Ponce de Leroux, c'est ça?
Oui, on s'appelait André Ponce de Leroux. Sous la Révolution, il se faisait appeler Marat le Pelletier Ponce, parce qu'il fallait avoir des noms un peu plus ronflants de bons citoyens. Et il a connu Bonaparte à Toulon. Il avait fait même manger sa première bouillabaisse à l'époque. Ils étaient très très républicains tous les deux. Et puis, à partir du Gilles Brumaire, du coup d'état de Napoléon, il est devenu anti-napoléonien, fou, parce qu'on remplaçait les citoyens par des soldats. Bon, il est devenu très hostile. Et au bout d'un moment, il a trouvé, comme Planck, grâce à un de ses amis qui s'appelle la CEPED, le naturaliste, il s'est retrouvé à diriger les mines de fer de l'île d'Elbe et à les remettre en route. Et puis, qu'est-ce qui se passe? 5 ans plus tard, crac, l'homme qu'il fuit arrive sur l'île. C'est quand même très dur comme situation.
Et alors, bon, il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup de personnages dans votre livre. Il y a un maître d'hôtel de Napoléon, il y a le général Campbell qui était commissaire anglais. Tous ces gens, donc, ont été les témoins de la vie quotidienne sur l'île d'Elbe. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Dans les premiers mois de son séjour sur l'île d'Elbe, Napoléon, pour ne pas sombrer dans la déprime, sans doute, choisit l'action. Pour preuve, le témoignage de Marchand, son valet de chambre. 6 heures de sommeil lui suffisaient, dit-il. Il semblait presser la nuit de se passer et attendre le jour avec impatience. Aussitôt, Napoléon s'habillait, montait à cheval, dirigeait sa promenade du côté du port, allait chez le grand maréchal ou bien assistait à l'exercice de sa garde. En une suractivité qui épuise le commissaire britannique Campbell. Napoléon, dit-il, prend plaisir à fatiguer tous ceux qui l'accompagnent dans ses excursions. Hier, à une promenade à pied par un soleil ardent qui a duré de 5 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, et après avoir visité les frégates et les transports, il est monté à cheval pendant 3 heures encore pour se défatiguer, m'a-t-il dit. Et Napoléon a bon appétit, apparemment. Les mets les plus simples étaient ceux qu'il préférait, nous dit Marchand. Les lentilles, les haricots blancs ou les haricots verts. En des goûts simples, hein, ce qui n'empêche pas d'instaurer quand même dans son palais une étiquette très stricte. Histoire sans doute de ne pas oublier l'Empire. Ponce de Leroux, donc l'administrateur de l'île, raconte. Aussitôt qu'il fut installé, l'empereur établit des règles d'étiquette. Pour l'approcher, il fallait faire une demande d'audience. Cette règle était sans exception. En une étiquette qui a quelquefois un côté un peu ridicule. Par exemple, lorsque l'empereur sort, les postillons doivent avoir, je cite, un chapeau rond avec un galon d'or, un frac vert avec des boutons d'or, une veste rouge galonnée, 8 piqueurs sonnant du cor précèdent la voiture. Bon, tout ça sur l'île d'Elbe. Et au palais, le dimanche, il y a le lever, comme aux Tuileries, hein, comme le lever du roi. L'empereur assiste très exactement à la messe, les autorités civiles et militaires y sont invitées. Tous les soirs, il y a cercle, et lorsque 10 heures sonnent, l'empereur se retire dans son intérieur, et ainsi de suite tous les jours. Mais au bout de quelques mois, la déprime semble s'installer. Notre île d'Elbe est une bien petite bicoque, soupire Napoléon à son entourage. Et en septembre 1814, Campbell, donc le Britannique, note dans son journal: Napoléon semble avoir perdu toute habitude de travail et d'études. Il tombe dans un état d'inactivité qu'il n'a jamais connu. Je commence à croire qu'il est tout à fait résigné à sa retraite et qu'il se trouve passablement heureux. Excepté quand, dans sa solitude, se réveille le souvenir de son ancienne grandeur. Souvenir rendu plus amer par la pensée qu'on retient loin de lui l'impératrice et son fils, le roi de Rome.
Un commentaire sur ces textes de gens qui ont vécu auprès de Napoléon à l'île d'Elbe, Patrick Rambaud. On a l'impression d'abord d'un homme résigné. Ou est-ce qu'il fait semblant de l'être?
C'est-à-dire que, oui, au bout d'un moment, il commence à vraiment s'ennuyer. Parce qu'après avoir fait les routes, importer des arbres de forêt noire pour planter des forêts, il s'épuise un peu tout de même. Et ça tourne en rond. D'autant plus qu'il y a environ 100 visiteurs par jour qui viennent le voir, qui viennent du continent. Il y a des comtesses italiennes, des lords anglais, beaucoup d'anglais.
Des touristes qui viennent un peu comme le voir comme un lion en cage, quoi.
Comme au zoo, exactement. Ouais. Mais qui viennent discuter, lui donner des informations aussi. Ouais. Surtout les anglais, qui viennent beaucoup, les anglais. Les anglais l'adorent. C'est très, très curieux. Bientôt, il y a un génois qui va s'installer sur l'île et qui va vendre des bustes de Napoléon. Et tous les Anglais repartent avec un buste sous le bras. Donc c'est très très curieux. Il a développé le tourisme.
Commerce, oui.
Ah oui, il y avait une auberge avant, et maintenant il y en a 10, 12.
Oui.
Donc l'île fait fortune. Ça amène de l'argent, les gens d'Elbe sont très contents. Mais c'est vrai que c'est assez minable tout de même. Et il le sait. Donc
Il est très actif, vous le disiez à l'instant. Il reconstruit les fortifications de la ville principale, de sa capitale, entre guillemets, Porto Ferraio.
Qui est très 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 déglinguée, hein, quand même. Cette petite ville n'est pas
terrible. Hein, c'est vrai. Et alors, il développe aussi, vous le disiez, les activités économiques. Bon, il y avait les mines de fer, hein, sont célèbres depuis l'Antiquité. Je crois que les Étrusques les utilisaient déjà. Les mines de fer de l'île d'Elbe, et puis aussi le mûrier, je crois.
Le mûrier, pour importer des mûriers pour développer la culture du verre à soie. Il s'occupe aussi de la pêche au thon. Il s'occupe un peu de tout, comme un sous-préfet qu'il est devenu.
Et il reste quand même en contact avec la France, d'où ses espions reviennent pour lui apporter les nouvelles du continent.
Je vous rapporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est très bonne, mais la mauvaise est pire que mauvaise.
Commence par elle.
Les Anglais se méfient. Ils ne croient pas que vous finirez vos jours ici. Le fait que l'île d'Elbe ne soit qu'à 3 ou 4 jours de mer de la côte française les empêche de dormir. Ils envisagent de vous transférer sur une autre île. Leur plan est de s'emparer de vous pour vous conduire clandestinement à Sainte-Hélène.
Sainte-Hélène ?
C'est au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de toute terre habitée.
Quelle est la bonne nouvelle ? Elle a intérêt d'être vraiment bonne pour compenser celle-là.
Je pense que votre majesté l'appréciera. Selon mes informateurs, la situation en France s'est sérieusement et rapidement dégradée. Quant au roi Louis XVIII, il fait vraiment l'unanimité, mais contre lui. Les Parisiens en colère sont si nombreux à jeter leur cocarde blanche qu'il paraît que les égouts s'en sont trouvés bouchés.
Diable.
Ils donneraient beaucoup pour vous voir, sire. Ils vous réclament, et de tout cœur.
C'est vrai ce que un des espions de Napoléon, qui s'appelait Cipriani, un personnage tout à fait mystérieux, lui rapporte du continent. D'abord, ce projet déjà d'envoyer Napoléon à l'île d'Elbe.
Oui, c'était pendant le congrès de Vienne.
À Sainte-Hélène.
C'était à l'époque du congrès de Vienne. C'est Talleyrand qui lance cette idée. Parce qu'il s'est retrouvé à l'île d'Elbe à cause du tsar, qui aimait beaucoup Napoléon. Et qui a négocié avec Caulaincourt l'île d'Elbe, c'est-à-dire pas trop loin non plus. Ils avaient évité entre la Corse, la Toscane, puis c'est tombé sur l'île d'Elbe, pour pas qu'il soit trop loin. Mais bon, Talleyrand aimerait bien le voir beaucoup plus loin.
Et parce qu'on a peur de lui, il a même été l'objet, je crois, de tentatives d'assassinat. En tout cas, on avait très peur à l'île d'Elbe.
C'était truffé d'espions. Il y a des espions qui s'espionnaient les uns les autres. C'était extraordinaire. Mmh. Et qui envoyaient des rapports, soit en Italie, soit aux Tuileries, soit directement à Talleyrand. Donc tout ça était très suivi. Bon, c'est pour ça que d'ailleurs que Napoléon, au bout d'un moment, a joué un petit peu le gâteux on disait il retourne en enfance, parce qu'il faisait des farces idiotes, tout ça, on dit bon, il est plus dangereux. Il faisait un peu exprès quand même de jouer ce rôle-là.
Et alors puis ce qu'on lui dit aussi, c'est-à-dire que en France, l'opinion a vraiment basculé. Au début, bon, elle s'est un peu résignée. Parfois même, elle a applaudi au retour de la monarchie avec Louis XVIII. Là, véritablement, le régime de Louis XVIII s'est rendu très impopulaire pendant ces quelques mois.
Très vite, très vite. Mais c'est pas forcément Louis XVIII, c'est surtout son entourage. Les gens avaient très peur de revoir l'ancien régime, en fait. Mmh. Et ça en prenait les apparences. Hein. Mmh. Et là, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, que je ne savais pas, que naît le culte de Napoléon pendant son absence. Oui. C'est là où on voit apparaître des objets à son effigie, des chansons, on fête la Saint-Napoléon dans les Vosges, enfin, il manque. Il commence à manquer la population.
Ah oui, vous dites aussi, par exemple, vous citez ces choses étonnantes, par exemple, quand les Français jouent aux cartes, au lieu d'annoncer le roi de pique ou de trèfle, ils disaient le cochon de pique ou le cochon de trèfle. À Rennes, on avait sifflé, par exemple, au théâtre, la représentation d'une pièce de théâtre qui s'appelait Le Retour des Lys, hein, la fleur de la monarchie. Et alors, vous dites une chose absolument amusante, Patrick Rambaud, c'est que Napoléon lisait le courrier qui était adressé à ses soldats. Oui, ils étaient à peu près 600, il y avait 600 grognards ou 600 soldats de la garde qui étaient devenus l'armée de l'île d'Elbe. Et alors avant de donner ces lettres à ses soldats qui recevaient ces lettres de France, il les lisait. Alors il y en a une que vous citez.
Oui. Qui est authentique, bien sûr.
Qui est authentique. Oui. Alors ça c'est donc des parents qui écrivent à leur enfant qui est à l'île d'Elbe. « Je t'aimons bien plus depuis que je te savons auprès de notre fidèle empereur. » Les Bourbons ne sont pas au bout et nous n'aimons pas ces messieurs. Je n'avons rien à t'apprendre sinon que je prions Dieu et que je faisons prier ta sœur pour l'empereur et roi. C'est étonnant.
Oui, il a toujours le courrier avant, lui. Il a toujours fait ça, même avant, même aux Tuileries, tout ça. Il aimait bien. Il adorait le courrier de son entourage. Son petit côté chez Ossescu, ça, hein, quand même. toutes les lettres passaient déjà chez lui. Comme ça, il avait l'air d'être au courant de tout.
Oui.
Ça, c'est une de ses manies. Oui, alors l'idée, comme en plus, il n'a pas grand-chose à faire, il peut tout lire.
Alors, cela dit, bon, on sent à l'évidence qu'en France, il manque. C'est d'ailleurs pour ça, Patrick Rambaud, que votre livre s'intitule « L'absent ». Oui, parce que dans les casernes, les soldats qui sont restés, pour ne pas prononcer son nom, trinquent le soir à l'absent. C'est son nouveau nom, quoi, l'absent. Et l'absent qu'on surveille très de très près, au point d'ailleurs, dites-vous, qu'on a même tenté de mettre une fille dans le lit de Napoléon.
Oui, mais ça, c'était vu la maladie qu'il avait à cette époque-là, c'était pas la peine.
Ah oui, là, on le voit aussi en train de se donner les piqûres, parce qu'effectivement, il y avait des problèmes de ce côté-là. Alors bon, qu'est-ce qui l'a poussé quand même à vouloir partir de l'île d'Elbe à un moment donné? Quand est-ce que ça s'est produit, Patrick Rambaud?
Au bout d'un moment, au bout de quelques mois, d'abord, il y a trois raisons. D'une part, celle que vous avez dite tout à l'heure, c'est qu'on parle de l'île de Sainte-Hélène, déjà, à cette époque-là. Bon, il sait très bien où est Sainte-Hélène. Deuxièmement, la pension qu'il doit recevoir du roi, il ne touche pas un sou, il sait qu'il ne touchera jamais un sou.
Et pourtant, ça avait été signé, ça faisait partie du traité de Fontainebleau.
Oui, absolument, mais il sait bien qu'il ne reverra pas, et donc il n'a plus d'argent. Deuxièmement. Troisièmement, il y a tous ces émissaires qui viennent d'Italie ou qui viennent de France lui exposer la situation et lui demander de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de patriotes italiens qui viennent aussi lui dire qu'il voudrait être, qu'il soit roi d'Italie. Enfin, donc il est pressé de tous les côtés. Et tout ça fait que, connaissant la situation dégradée en France, il se dit, je vais tenter ma chance.
En tout cas, il cache ses intentions pendant très longtemps, même à sa famille.
Oui, il n'en est pas certain. Il faut pas que ça s'ébruite, parce qu'il y a tellement d'oreilles sur cette île, et la moindre rumeur se développe à toute vitesse. Il vaut mieux se taire.
Et cela jusqu'en février 1815.
Ouais. Cambronne, allez chercher les éphémérides. Je veux savoir quand aura lieu la prochaine éclipse de lune. Messieurs, que le brick l'inconstant et la goélette soient conduits dans un coin retiré du port où ils seront discrètement repeints, afin de pouvoir être pris pour des navires anglais.
Votre Majesté, le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe.
Monsieur le maréchal Ney, c'est vous qui le premier aurez à affronter l'usurpateur.
Je promets à votre Majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer.
Alors on sait ce qui a suivi. Patrick Rambaud, hein, après avoir été envoyé dans le Midi pour arrêter Napoléon, Ney va se rallier à lui. Comment est-ce qu'il se fait que un homme aussi surveillé que l'était Napoléon ait pu quitter comme ça l'île d'Elbe et traverser la Méditerranée pour rejoindre la France?
D'abord, il a eu de la chance. Deuxièmement, il avait fait repeindre son bateau aux couleurs anglaises, déjà, pour que ça soit plus discret. Mais ça se voyait, ça, pourtant. Bon. Et puis, il a profité de l'absence du colonel Campbell, qui était allé voir sa maîtresse en Italie, et qui ne pouvait donc pas...
L'anglais, oui.
L'anglais, c'est l'anglais, il était là comme caution, l'anglais. Il voulait le garder à côté de lui, comme ça, il était tranquille. Et l'anglais part quelques jours, il profite du départ de cet anglais pour lui partir, en criant la politesse à tout le monde, et sans que personne soit au courant, y compris les espions sur l'île, qui n'entendent, ils ne croient pas ce qui se passe. Quoi. Il a fait 24 heures avant, il y avait le blocus de l'île complètement. Personne n'avait le droit de sortir de l'île. Quand même, c'était préparé.
Et il y a une scène extraordinaire, je crois qu'il croise un bateau, et Napoléon se met à plat ventre pour pas qu'on le voit sur la coupée.
Un bateau français, oui. Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Eh ben, le capitaine du bateau dit... au capitaine
de l'inconstant. Enfin,
c'est l'inconstant, c'est l'inconstant. Il dit, il demande des nouvelles de Napoléon. Comment va papa? Il dit. Et puis il passe. Bon, c'était pas la peine de le mettre au courant. Mais...
Alors, il débarque donc à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Il arrivera à Paris 20 jours plus tard. C'est le vol de l'Aigle. Ce truc absolument phénoménal. Comment en 20 jours? Il avait quand même bien calculé. D'abord, il avait fait une proclamation aux Français. Il l'avait rédigé à l'île d'Elbe avant de débarquer. Oui. Patrick Rambaud.
Oui, il a fait copier la déclaration par par les soldats sur le bateau pendant le trajet. Trajet risqué quand même, hein. Il avait vraiment de la chance.
Oui, il a évité quand même les endroits où à l'aller il s'était fait insulter.
Ah, pour revenir, oui, moi je m'arrête au premier jour, hein. Mais oui. Sinon il est revenu par Grenoble, il est revenu par les Alpes. Il voulait pas traverser la Provence où il avait eu tant de malheur. Et il savait, il y avait des gens de Grenoble qui étaient venus le voir, il savait très bien que ça se passerait au mieux de ce côté-là. Ce qui est exact. Et vous savez, le célèbre tableau, on le voit devant les soldats, vous n'oserez pas tirer sur votre empereur. En fait, je ne suis pas allé jusque-là, c'est dommage, mais il savait que les fusils n'étaient pas chargés.
On l'avait prévenu. Donc il ne prenait pas de risque.
On l'avait prévenu. Ouais.
En tout cas, c'était le fameux vol de l'aigle, hein, avec ses proclamations. Ouais. L'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Il arrive donc à Paris, je crois, le 20 mars 1815. Et puis, trois mois plus tard, ce sera Waterloo, une deuxième abdication et un nouvel exil, le dernier, à Sainte-Hélène. La place de l'île d'Elbe, dans l'épopée napoléonienne, il y a une formule assez étonnante par laquelle se termine votre livre, Patrick Rambaud. Vous dites qu'à l'île d'Elbe, Napoléon rêvait à Bonaparte. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il voulait...
Il savait que s'il voulait reconquérir la France, il fallait repartir au début. Il fallait plus jouer à l'empereur, très trop autoritaire. Il fallait revenir plus près des gens et recommencer à ses débuts, revenir Bonaparte, reparler de la Révolution, réintroduire la Marseillaise qui était interdite sous l'Empire comme chant séditieux.
Quand même. Ah oui.
Ben oui. Donc toutes ces choses-là, il savait que ça pouvait, ça marchait encore sur les gens et que justement les autres ayant peur de voir revenir l'ancien régime, il fallait recommencer.
Au fond, il a mûri un peu à l'île d'Elbe. Il a voulu redevenir le général républicain qu'il était 20 ans plus tôt,
en fait. Il a compris son intérêt, surtout.
Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Je sais, j'ai appris que vous n'étiez pas allé à l'île d'Elbe pour écrire ce livre.
Jamais sur place.
Non,
jamais, parce que mais ça ne ressemble pas.
Oui. Mais est-ce qu'on a une idée de ce qui reste? Parce que c'est une île, je crois, très touristique, Patrick Rimbaud.
Je crois que ça n'a justement plus rien à voir avec ce qu'elle était quand Napoléon y a débarqué, puisqu'il a tout fait. Il me semble même, d'après les cartes postales que j'ai pu voir, que les maisons où il habitait ont été agrandies, transformées en musées. Enfin, ça ne ressemble plus du tout.
Oui.
Donc, moi, ça m'aurait détruit le moral de voir ça. J'aurais pas pu refaire le...
Ouais. D'où vous vient cet intérêt pour Napoléon? Puisque c'est le troisième roman que vous lui consacrez, Patrick Rimbaud.
Ça vient de Balzac. C'est un peu le hasard. Ça vient d'une lettre de Balzac à Madame Anska, où il lui explique longuement qu'il veut écrire la bataille d'Essling, de A à Z, du début à la fin, sans rien oublier. Et puis, il en parle pendant 15 ans. Avec des lettres du genre, demain je m'y mets. Et il n'a jamais écrit qu'une demi-ligne au dos du manuscrit du médecin de campagne. Il y a marqué la bataille, chapitre 1er, le mardi 20 juin, vers le milieu de la journée, c'est tout. Et vous pouvez voir cette copie-là au musée de Balzac, et tout à côté de la maison de la radio, d'ailleurs. C'est là où je l'ai vue.
Et donc vous avez repris la plume de Balzac, hein, Patrick Rimbaud.
Ben non, mais ce que je me disais, que Balzac est un garçon qui avait des bons sujets. Quand même. Alors il voulait faire ça, il a dit, un sujet il n'a pas traité. Bon, ben je vais le traiter, allons-y, pourquoi pas.
Mais en tout cas, justement, on retrouve le récit que vous venez de nous faire, enfin, ça c'était la réalité, dans votre roman, donc L'Absent, qui vient de paraître chez Grasset. Il s'agit du troisième volet de cette trilogie impériale qui a été débutée en 97, Patrick Rimbaud, avec, je l'ai cité, La Bataille, un ouvrage qui a reçu le prix Goncourt et le grand prix du roman de l'Académie française, et puis aussi Il neigeait, un autre livre publié chez Grasset, c'est sur la retraite de Russie. À lire également sur notre sujet, quelques livres, l'excellent dictionnaire Napoléon, dirigé par Jean Tullard et publié chez Fayard, et puis Les 100 jours de Dominique de Villepin, dont la première partie est consacrée à l'épisode de l'île d'Elbe, un livre édité chez Perrin dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits du Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle de Napoléon. Ce téléfilm est distribué par France Télévisions. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute. Vous consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire.